Vous écoutez Radio Ndekeluka dans les grandes villes centrafricaines. Il est 13h. Nous vous invitons à suivre la grande édition avec Karen Fabienne Doutiga. Bonjour.
Bonjour Verdiane, bienvenue à tous dans cette édition. À la une, on suit la situation à Kwango dans la Waka. La ville est calme mais encore paralysée. Témoignage à suivre. Près de 300 milliards de francs CFA, c'est ce que le gouvernement centrafricain compte dépenser l'année prochaine. Le ministre des Finances a présenté hier le projet de ce budget sur fond de tension à l'Assemblée nationale. Dans cette édition également, ce don de la MINUSCA, la prison pour femmes de Bimbo, elle leur a offert la semaine dernière une bibliothèque. Football, école de foot de Dimiani Bada joue contre Sporting Club de Bangui à 15h, match comptant pour la 10e journée du championnat aller de la Ligue de Bangui en 2e division.
À la une de ce journal, le calme s'est installé à Kwango dans la Waka après l'attaque jeudi des éléments armés assimilés aux hommes de l'UPC de Ali Darassa.
Oui, Verdiane, le calme est revenu cependant. Les administrations publiques restent toujours paralysées. Les forces armées centrafricaines et leurs alliés russes patrouillent dans la ville depuis vendredi soir, mais les habitants vivent toujours dans des conditions difficiles. Écoutons cet habitant joué au téléphone par Emmanuel Sambouli.
Après l'attaque des hommes armés la semaine passée, les activités n'ont pas encore repris dans la ville. Il n'y a que les commerçants qui ont repris timidement, mais les prix des denrées alimentaires sont à la hausse. Les écoles et l'hôpital n'ont pas encore rouvert leurs portes. La ville est actuellement sous contrôle des forces armées centrafricaines et leurs alliés russes. Ces hommes armés sont encore visibles dans les périphéries de Kwango. Les habitants vivent dans des conditions difficiles parce qu'ils ne peuvent ni aller au champ, ni à la pêche. Nous demandons au gouvernement de nous venir en aide.
Également au village Ngorundo, à 68 km de Bria dans la Haute-Coteau, la situation sécuritaire s'est améliorée, mais la localité est déserte. La plupart des habitants ont fui pour se réfugier dans des villages voisins. Plus de 300 personnes ont besoin d'une assistance selon des autorités locales. On rappelle, le village Ngorundo a été attaqué par des éléments armés samedi et dimanche, attaque qui a coûté la vie à 5 personnes.
Et Buren, le projet du budget pour l'exercice 2022 a été présenté hier aux députés par le ministre des Finances Hervé Ndouba au siège du Parlement à Bangui.
Oui, Verdiane, c'est un budget provisoire d'environ 300 milliards de francs CFA qui va être examiné par les différentes commissions parlementaires. Cette présentation s'est déroulée sur fond d'un mouvement de colère des élus de la nation. Certains parlementaires ont même claqué la porte pour protester contre le non-paiement par le gouvernement de leurs indemnités. Igor Jaska, Sinapai.
Au début de cet exercice constitutionnel, les parlementaires ont exigé une concertation sans le public avec le ministre des Finances Hervé Ndouba. Évariste Ngamana, président de la séance, a vidé la salle pour permettre la tenue de cette concertation avant la reprise de la plénière. Après 1h30 de concertation, les élus de la nation ont exigé au ministre Hervé Ndouba pour chaque député le versement sans condition de 3 600 000 francs CFA, dont 2 millions pour l'initiative parlementaire, 1 million de francs CFA pour la restitution de l'accord de Khartoum et 600 000 francs CFA d'assistance parlementaire. Certains députés mécontents ont même claqué la porte. Nos sources précisent que Hervé Ndouba promet une solution dans une semaine pour répondre à leurs préoccupations. À la reprise des travaux, le ministre des Finances a présenté un projet du budget de près de 300 milliards de francs CFA pour l'exercice 2022. Dieudonné Marien Djemé, 4e vice-président de l'Assemblée nationale.
Dit le budget, c'est une prévision que l'État fait pour une année donnée. Le montant pour l'exercice 2022 se chiffre à 298 milliards et quelques poussières. Donc voilà, c'est à cet exercice-là que nous nous sommes livrés aujourd'hui. Pour l'année 2022, les priorités, vous savez qu'un pays qui n'est pas stable ne peut pas se développer. C'est surtout la sécurité. Et en plus de la sécurité, il faudrait que les gens soient en bonne santé pour bien travailler dans la sécurité, la santé, l'éducation. C'est les priorités habituelles.
Après cette présentation sans débat, les 8 commissions sectorielles vont se mettre au travail pour l'examen de ce projet du budget pour son adoption dans ce mois de décembre. La session ordinaire en cours à l'Assemblée nationale est consacrée à l'examen du budget pour doter le gouvernement des moyens de son fonctionnement.
Justice, dans cette édition, les avocats centrafricains ont effectivement repris leur travail hier après un mécontentement de 5 jours.
Ils étaient entrés en grève après la libération de Hassan Bouba, ministre de l'élevage, qui avait été placé placé en détention provisoire par la Cour pénale spéciale. Beaucoup de justiciables apprécient cette reprise à sa juste valeur. Bonaventure Ngoba Katikiro a fait un tour dans les tribunaux de Bangui suivant son compte rendu.
Contrairement aux jours passés, toutes les cours du tribunal de grande instance, de la cour d'appel et de la cour de cassation sont pleines de monde. Les professionnels de droit et justiciables se croisent entre les voitures en stationnement. La reprise effective du travail des avocats s'explique par la tenue des audiences publiques. Boniface Fangonda vient du quartier Miskine dans le 5e arrondissement de Bangui. Il continue de suivre une affaire de vente illégale de maison familiale. Avec son conseil, il attend le délibéré d'un troisième jugement.
Depuis au moins 5 ans, tous les deux, j'ai gagné. Mon avocat, il a dit, il sera là. Je veux cette délibération-là équitablement, que notre justice doit marcher sur le droit chemin.
Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Centrafrique, Maître Émile Bison, confirme cette reprise et fait savoir que c'est la souffrance des justiciables qui les a motivés à prendre cette décision.
Les avocats étaient devant les différentes juridictions de Bangui, toutes les juridictions et instances de la République centrafricaine. Les avocats ont repris leur participation aux audiences en ce jour. Nous avons en charge des dossiers pendant devant les juridictions en ce moment. L'une des raisons, la principale qui nous a amené à décider de la reprise du travail, c'est assurer la sauvegarde des intérêts dont nous avons la charge.
Les avocats avaient cessé de prendre part aux audiences pour protester contre la libération du ministre de l'Élevage, Hassan Bouba Ali, qui avait été placé en détention préventive par la Cour pénale spéciale et conduit à son domicile par des éléments de la gendarmerie.
Et justice toujours règne, le fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale poursuit la mise en œuvre de son projet d'assistance aux victimes centrafricaines.
Oui, Verdian, lancé en février dernier, ce programme est exécuté en ce moment auprès des victimes vulnérables et marginalisées ayant survécu à des crimes sexuels. Le fonds a rencontré plusieurs victimes hier à Bangui. Inès Laure Ongopo.
Ce programme d'assistance est mis en œuvre dans plusieurs préfectures de la République centrafricaine. À Bangui, certaines victimes ne sont pas informées de ce programme. Ce lundi, la plateforme des victimes a rencontré Bertin Loukeba, représentant pays du fonds au profit des victimes en République centrafricaine. Bertin Loukeba précise les zones géographiques du projet.
Pour l'instant, on a un programme multiannuel qui est composé de 5 projets. Il y a un projet qui est mis en œuvre dans la préfecture de la Lobaye. Il y a un projet qui est mis en œuvre dans la préfecture de la Kémo. Il y a un projet qui est mis en œuvre dans la préfecture de Ombelampoko et un projet mis en œuvre dans les préfectures de Ouam et Ouampende. Et nous avons aussi deux programmes plutôt dans la ville de Bangui et ses environs.
La Fondation Denis Mukwege est l'une des organisations qui exécute ce programme auprès de plus de 400 personnes victimes de violences sexuelles. Amos Dembélé, son directeur pays.
Il y a deux piliers sur lesquels le projet va travailler, c'est-à-dire renforcer du point de vue psychologique ces personnes-là qui sont victimes de violences sexuelles liées aux conflits armés. Et deuxièmement, leur donner un soutien matériel pour leur permettre de mener des activités génératrices de revenus, pour leur permettre d'avoir quelques revenus pour faire face à certains besoins de leur famille. Ça, c'est les deux grandes composantes sur lesquelles le projet va travailler.
Le budget consacré au premier cycle annuel du programme d'assistance à ces victimes s'élève à 892 000 euros, soit plus de 500 millions de francs CFA. Une enveloppe obtenue grâce aux contributions volontaires des gouvernements du Japon, de la Finlande, d'Andorre et de l'Estonie.
Même en prison, les femmes détenues à la maison d'arrêt de Bimbo peuvent s'instruire.
Elles disposent depuis la semaine dernière d'une bibliothèque construite et équipée par la MINUSCA sur initiative de l'Organisation des Mamans de Centrafrique pour le Développement, OMCD. L'objectif est de lutter contre l'oisiveté carcérale. Francis Clavercal a été présent à la cérémonie de remise.
C'est un bâtiment de 20 mètres carrés divisé en deux parties, l'une contenant trois armoires de 12 casiers chacune, un bureau pour le bibliothécaire, l'autre, la salle de lecture comportant une table et 10 chaises. Une cinquantaine de livres, entre autres des romans, les livres de lecture, livres de contes, codes de famille, histoire, géographie et livres de droit sont déjà rangés dans les casiers. Jeannette Santilli, coordonnatrice de l'Organisation des Mamans de Centrafrique pour le Développement, qui a exécuté ce projet.
Une bibliothèque et une salle de lecture pour des détenus, c'est quelque chose d'innovant et c'est un plus quoi pour l'éducation, pour le savoir de nos sœurs et nos filles qui sont dans cette maison. prison incarcérale, parce que demain, à leur sortie, leur réinsertion dans la vie active sera nettement améliorée et plus facile si elles apprennent à lire et à écrire à travers cette bibliothèque.
Un programme sera établi pour la lecture et l'alphabétisation des prisonniers. Benjamin Dongobe, régisseur principal de la maison d'arrêt de Bimbo.
Ce projet d'alphabétisation qui aide nos femmes détenues à lire et à écrire. Nous l'avons ici, donc on va compléter ça avec cette bibliothèque-là. Ça va joindre au moins les deux bouts.
Berthe Yassilungu, délégué des détenus, apprécie ce geste.
On ne pensait pas pouvoir bénéficier d'un tel projet. C'est vraiment une surprise. Nous n'allons pas rester en prison. Ce que nous apprenons ici, nous allons le transmettre à nos petits-fils.
Le coût total de cette réalisation s'élève à 3 750 000 francs CFA. L'entrée à cette bibliothèque est gratuite pour les détenus.
Culture dans ce journal, le lycée Charles de Gaulle, en partenariat avec l'ambassade de France, célèbre le centenaire du roman Batoila de René Maron.
Batoila, le véritable roman nègre, a remporté le prix Goncourt en 1921. Depuis hier et ce jusqu'au 10 décembre, des rencontres, expositions, conférences, débats sont et seront organisées autour de ce roman écrit dans le contexte centrafricain de Lubangui-Chari. Rolf Steve Domialu.
J'ai été très heureux d'apprendre la bonne nouvelle, l'attribution du Grand Prix de l'Académie française à mon ami René Maron.
C'est la voix d'Aimé Césaire, homme politique et écrivain français. Il rend hommage à son ami René Maron, prix Goncourt 1921. Né en Martinique en 1887, René Maron est mort à Paris en 1960. Il fut le premier écrivain noir à recevoir le prix Goncourt pour son roman Batoila en 1921. Michael Lionel Dagbinou, l'un des promoteurs de cette activité, retrace le succès de ce ouvrage écrit à l'époque de Lubangui-Chari.
Tout d'abord, ce qui m'a beaucoup marqué chez René Maron, c'est d'abord son style, sa façon de décrire son histoire et tout d'abord sa façon d'être en tant que noir, se défendre et puis mettre en valeur l'homme noir, malgré qu'il est français, malgré qu'il est noir, mais il est français, mais il a pris son temps pour revaloriser le noir qui est considéré comme un être anhistorique. Voilà ce que j'ai retenu de René Maron.
Du 6 au 10 décembre, plusieurs activités sont au programme. Stéphane Marchand, proviseur du lycée Charles de Gaulle.
Plusieurs conférences, mais aussi des danses. Nos élèves du lycée français et d'autres lycées ont travaillé avec un danseur professionnel sur les danses traditionnelles. On a aussi une exposition, qui est une exposition nomade. Donc mercredi, être dans un autre lycée, jeudi encore dans un autre lycée et dans quelques temps, elle ira à l'université.
Tendresse Sélécon, élève en classe de première, est motivée de participer à ce grand événement.
Jusqu'alors, je me suis bien amusée. C'est en fait l'ouverture. Ça sera le vendredi que je vais lire un texte écrit par l'un de mes profs. Le prof d'histoire Jean, Monsieur Guimendego, en rapport avec le roman Batoila.
Ce projet a reçu le soutien de l'ambassade de France en partenariat avec les lycées Charles de Gaulle, Miskine, Martyr, Saint-François et groupe Élite Formation.
Actualité africaine en République démocratique du Congo, la justice accorde la liberté provisoire à Vital Kamerhe.
Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale, a été condamné en juin 2020 à 20 ans des travaux forcés pour détournement de fonds publics. Une liberté provisoire motivée par des raisons sanitaires mais assortie d'une forte caution. Vital Kamerhe devra débourser 500 000 dollars américains pour jouir de cette liberté. Inès Laurent-Goupo est déjà là pour les sports. Inès, bonjour.
Bonjour à Anne-Fabienne Dotiga. Bonjour à toutes et à tous.
Du football, le championnat allé de la Ligue de Bongui en deuxième division démarre cet après-midi au stade Barthélémy Bogonda.
En deuxième division, c'est la dixième journée qui se joue à 15h. École de foot d'Imiani Bada joue contre Sporting Club de Bongui. Demain en première division pour la onzième journée à 15h. Castel Foot croisera DFC 8.
Le Premier ministre Henri-Marie Dondra, invité d'honneur de Geoffroy Kondogbia à Atlético de Madrid.
Sur sa page Facebook, le Premier ministre a écrit « Geoffroy Kondogbia, l'international centrafricain, m'a fait l'honneur de m'inviter à titre personnel et privé en Espagne pour ce week-end. L'objectif de sa démarche était de me faire rencontrer les dirigeants de son club Atlético de Madrid, de le soutenir, de découvrir l'environnement dans lequel il exerce son métier et de discuter des projets qu'il envisage financer au pays. » Fin de citation.
À l'international, Inès, l'Assemblée générale élective au Cameroun, la commission électorale électorale de la FECAFOOT a dévoilé la liste des candidats retenus pour l'élection prévue ce 11 décembre 2021.
Oui, Rennes, 6 candidatures ont été retenues sur les 8 pour le poste de la présidence. Il s'agit de Samuel Etoufis, Jean Crépin Souter Niamsi, Jules Denis Onana, Justin Tango, Seydou Mbombo Ndjoya, président sortant de cette instance depuis 2018, et de Zachary Ouandia. Pour cette élection, Célestin Yanindi, président de la Fédération Centrafricaine de Football, est désigné pour représenter la CAF à cette Assemblée Générale Élective de la Fédération Camerounaise de Football, FECAFOOT. Pour Célestin Yanindi, ce choix honore toute la famille du football centrafricain.
Merci à vous Inès Lorangopo pour la page sport de ce journal. Et si ça achève le journal en français, tout de suite la version en langue nationale.